VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonsoir à tous, 14h à Bangui en Centrafrique, bonsoir donc, bienvenue en République Centrafricaine. Nouveaux affrontements entre ex-Seleka et Antibalaka ce week-end à Bambari dans le centre du pays. Le tout dernier bilan de ces accrochages intercommunautaires qui ont commencé jeudi dernier, au moins 15 morts et 20 blessés selon l'AFP qui cite la gendarmerie locale. Beaucoup d'habitants de la localité ont fui en brousse pour échapper aux hostilités. En déplacement au Nigeria, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a commémoré l'attaque de Boko Haram contre les Nations Unies, c'était en 2011. Camille Gros-Didier.
Ban Ki-moon a rendu hommage lundi aux 23 personnes qui avaient perdu la vie il y a 4 ans lors d'un attentat meurtrier à la voiture piégée contre le bâtiment des Nations Unies qui abritait 400 personnes. Les djihadistes de Boko Haram avaient revendiqué l'attaque. Ce matin, nous rappelons à notre bon souvenir nos collaborateurs et partenaires disparus avec un moment de silence dans de nombreux endroits, a-t-il dit. Mais nulle part ailleurs qu'ici, à Abuja, le souvenir de ses collègues est plus proche, plus vivant et plus pressant. Nous nous souviendrons toujours d'eux comme ce que réellement l'humanité a de meilleur, a dit le secrétaire général de l'ONU. Monsieur Ban est arrivé dimanche à Abuja et lors de ses entretiens avec le président Muhammadu Buhari et divers autres responsables nigérians, la lutte contre l'insurrection islamiste qui frappe le Nigeria devrait être au centre des discussions, de même que le développement, la démocratie, les droits humains et le changement climatique. Il s'agit de la deuxième visite de Ban Ki-moon au Nigeria depuis sa prise de fonction en 2007.
Remaniement ministériel au Tchad, principale nouveauté, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique est scindé en deux, un ministère de l'administration du territoire et un autre de la sécurité publique. Ce dernier portefeuille, très sensible à cause des attaques du groupe islamiste Boko Haram, est confié à un proche du président et Idriss Déby, Ahmad Mohamed Bachi, qui retourne au gouvernement après avoir été conseiller du chef de l'État. La médiation internationale pour la paix dans le nord du Mali a appelé aujourd'hui, dans un communiqué, les groupes armés qui se sont récemment affrontés dans cette région à revenir à leur position avant ces combats et à libérer leurs prisonniers. Et la coordination des mouvements de la ZAWAD, la CEMA, suspend sa participation au comité de suivi de l'accord de paix alors que la reprise des travaux de ce comité était prévue ce lundi à Bamako. Pourquoi ce retrait de la part des ex-rebelles? La réponse avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La coordination des mouvements de l'Azawad de CMA, selon ses responsables qui sont à Bamako, participera ce lundi matin à la reprise des travaux du comité de suivi. Ça sera pour dire tout simplement que la CMA suspend sa participation aux travaux du comité de suivi de l'accord. Les rebelles demandent que les éléments de la plateforme qui sont actuellement à Anefis de quitter cette localité, sans quoi ils ne participeront pas aux travaux du comité de suivi de l'accord pour la paix. Le refus des rebelles est la conséquence des combats qui se sont déroulés dans la région de Kidal. C'est pourquoi la nuit et la journée de dimanche ont été très longues à Bamako. Il y a eu beaucoup de réunions entre les responsables militaires et de sécurité afin de trouver des arrangements. Des réunions qui ont continué très tard dans la nuit. Il reste à savoir ce qu'ils vont dire ce matin à l'ouverture des travaux de ce comité. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Bujumbura, 15h03.
VOA Afrique en direct de Washington.
Les opposants réels ou supposés au président Pierre Nkurunziza sont couramment victimes de tortures au Burundi, frappés à coups de barre de fer ou brûlés à l'acide par les forces de sécurité, a dénoncé ce lundi Amnesty International. Outre la torture et les mauvais traitements, Amnesty dénonce le caractère arbitraire des arrestations et détentions et l'absence d'avocats, de médecins et de visites de proches. En Égypte, un policier a été tué et au moins 25 autres ont été blessés aujourd'hui. Par l'explosion d'une bombe, l'attaque a eu lieu près de la ville de Rosette, un petit port méditerranéen à quelques 260 km au nord de la capitale, le Caire. Ouverture du 14e forum international de la GOA aujourd'hui à Libreville au Gabon. Cette législation américaine, renouvelée pour 10 ans en juillet, permet aux pays d'Afrique subsaharienne d'exporter plusieurs milliers de produits aux États-Unis en franchise douanière. Les explications de l'ambassadrice américaine au Gabon, Cynthia côté, elle est au micro de Nicolas Pinault.
C'est une réunion qui est très, très importante. Il y aura des délégations des États-Unis et aussi environ 35 pays en Afrique. Le but de cette réunion est de discuter l'AGOA et particulièrement comment est-ce qu'on peut profiter de l'AGOA pendant les 10 ans en venant. L'AGOA, c'est une loi qui donne les préférences aux pays en Afrique pour accéder le marché aux États-Unis. La loi, c'est la première fois en 2000 et maintenant on a renouvelé la loi en 2015 encore pour 10 ans. Et ça donne beaucoup de confiance pour les investisseurs qui veulent investir en Afrique. Parce qu'on sait, le moyen mécanisme pour encourager le développement, pour encourager la croissance, c'est avec commerce. Et c'est très important que l'Afrique maintenant est intégrée dans le monde du commerce.
L'ambassadrice des États-Unis au Gabon, Cynthia Akwete.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En France, le président François Hollande a décerné la Légion d'honneur ce matin à l'Élysée aux 3 jeunes Américains et aux Britanniques qui ont maîtrisé l'homme qui essayait d'ouvrir le feu à bord de Thalys Amsterdam, Paris, vendredi dernier. Le chef de l'État français a déclaré qu'un véritable carnage a été évité grâce à leur intervention. Une enquête est en cours pour déterminer les motivations du tireur Idrissa Seydou Dia.
L'enquête est difficile. Selon une source proche de l'enquête, interrogée par l'AFP, Ayoub El Kazani joue les têtes de mule. Derrière l'image du tireur gringalet semble se dessiner un profil de marginal, petit délinquant à 16 heures, attiré par les sirènes de l'islam radical. Le Marocain a nié tout projet terroriste, expliquant avoir trouvé sa Kalachnikov dans une valise, dans un jardin public près de la gare de Bruxelles, où il dort avec d'autres SDF. Selon lui, il voulait détrousser les passagers du train façon attaque de diligence pour pouvoir se nourrir. Une version qui ne convainc ni les enquêteurs, ni les jeunes Américains qui l'ont maîtrisé dans le train.
En Europe, pression migratoire de plus en plus forte au sud et à l'est. Les migrants arrivent non seulement d'Afrique par la Méditerranée, mais aussi d'Asie par voie terrestre dans les Balkans. Claire Morin-Gibault.
Plus de 7000 personnes sont parvenues hier dans le sud de la Serbie, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui souligne également avoir obtenu l'engagement du gouvernement macédonien que la frontière sera ouverte aux réfugiés fuyant la guerre dans leur pays. La Serbie est la dernière étape avant la Hongrie, pays membre de l'Union européenne. Sur une des autres voies qu'empruntent les migrants pour venir en Europe, quelques 4 400 personnes ont été secourues samedi et 300 supplémentaires dimanche en mer Méditerranée, dans des opérations coordonnées par des gardes-côtes italiens.
Le chef de la diplomatie italienne Paolo Gentiloni a déclaré que face à cette crise, l'Europe risquait de montrer le pire d'elle-même en matière d'immigration. Gentiloni a déploré ce qu'il a appelé l'égoïsme, les prises de décisions hasardeuses et les disputes entre les États membres de l'Union européenne dans ce dossier. Le président ukrainien Petro Poroshenko a accusé aujourd'hui Moscou d'avoir envoyé ces derniers jours de gros renforts aux séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine. Cette accusation survient à quelques heures d'un sommet à Berlin avec ses homologues allemands et français sur la crise ukrainienne. Le chef d'État ukrainien doit présenter ses propositions pour une désescalade du conflit lors d'une rencontre dans l'après-midi avec la chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande. Il s'agit de la première rencontre depuis les négociations marathon de Minsk en février qui avaient abouti à la signature d'accords de paix et à l'instauration d'une trêve désormais violée à un rythme quasi quotidien et sur plusieurs points de la ligne de front. Et puis, les djihadistes du groupe État islamique ont fait exploser un des plus célèbres temples de la cité antique de Palmyre, c'est en Syrie, renforçant encore les craintes internationales d'une destruction de ce site classé au patrimoine mondial de l'humanité. La dernière destruction annoncée hier est celle du temple de Baal Shamin, le sanctuaire le plus important du site de Palmyre, après celui de Baal, selon le musée du Louvre à Paris, cité par l'AFP. Ce temple dédié à Baal Shamin, le dieu du ciel phénicien, a commencé à être érigé en l'an 17, puis a été agrandi et embelli par l'empereur romain en 130. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau bulletin sur la Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info.